Saint-Denis.
Et c'est
pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pas s'y fier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième but
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Chute de Mélenchon juste devant Armstrong. Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti. L'Express, le TGV est parti. Shepard, 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh ben, il est l'heure. Vous êtes au Café des Sports, toujours sur Principe Actif. Bien le bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Gonzalo.
Ça va, ça va.
Bonjour, Bernardo.
Guten Tag.
Et bonjour, Damienski.
Hi.
Eh ben oui, comme il est de coutume, le mardi midi, entre 12h15 et 13h45, Café des Sports. Aujourd'hui, pas de Raoul. Excusez, il nous a apporté un billet d'excuses.
Signé par maman.
Et puis, on retrouvera les rubriques du coup habituelles, un peu de NBA, la chronique locale, les chiffres et les lettres de notre ami Bernardo.
C'est que les chiffres, c'est fini.
Ouais. Et puis, on parlera de rugby, évidemment, avec la fin du top 14, avec l'affaire Chabal et plein d'autres choses. Et puis, je suppose des coups de cœur, des coups de gueule sur l'actualité locale, nationale, internationale et intergalactique. Le tout orchestré par Gonzalo.
One late evening in the summer, I was sitting on my sofa, waiting for that big TV show. I wouldn't have missed for a million. I wouldn't have missed. It was so hot you were oppressed.
Et bah c'était quoi, Gonzalo?
C'était Jacuzzi.
D'ac. Est-ce que vous avez été voir du sport, monsieur Bernardo, cette semaine?
Non, j'ai juste contenté de mon footing dimanche, dominical.
Bien. Damienski, football, je crois?
Boîte carrée. Non, football, pas en direct. Pas présent.
Puni, d'accord. Moi, j'ai vu des petits joueurs au rugby. C'était bien, c'était rigolo. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis vous, Gonzalo? Du sport, pas du sport, à la télé.
Vous le saurez juste après.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà qui est dit. Dimanche matin, 9h45, le café est prêt. Et croyez-moi, il ne s'est pas fait tout seul, non. Brigitte, Nadine ou est-ce Francine s'est exécutée. La dame est présidente de Gaillon Volé, ouais, une bénévole parmi tant d'autres. Bah, elle a passé son dimanche matin au gymnase. André Malraux. Ouais, André Malraux, un gymnase. Pour préparer la collation, elle a tracé des lignes, elle a arbitré parfois. 10h30, elle s'accorde une pause cigarette, un café en main. Le troisième qu'elle a lancé. La journée est loin d'être finie. L'après-midi, bah, l'après-midi n'est même pas commencé qu'elle est déjà consumée. Ouais, elle va devoir enregistrer tous les résultats, effectuer les bilans de la saison, poussin et poussine, afin que les finales puisse se dérouler la semaine prochaine. Alors la dame, elle avoue, là, cigarette en main, café dans l'autre, elle avoue, septembre et octobre, pff, c'est l'horreur, avec pas un seul week-end de libre. Des papiers à remplir, à collecter, à quémander, puis à réclamer, mairie, entraîneur, ligue, parents, gamins, ça en fait de la page noircie. Mais c'est pas mieux en avril et mai, là, c'est les bilans, et puis faut tout recommencer, etc. C'est un peu la même histoire. Et tiens, faut participer à la journée, bouger, c'est la santé, on doit être là, nous. Et puis, il faut participer aussi, il faut être présent à celle de la rentrée, la journée des associations. Finalement, Gaillon, Évreux, je pense que Nantes, tout ça, c'est un peu la même histoire. Hein. Être président ou présidente, président ou présidente, oui, d'une petite association, bah, ce n'est pas loin d'être un sacerdoce. Un peu comme un maire d'une petite commune, avec tout le monde qui appelle pour un rien ou pour un beaucoup. En fait, il faut être d'une certaine façon connecté sur les autres, sur son humanité. Être bénévole, c'est s'engager pour l'autre, je crois. C'est croire en la jeunesse, croire au bienfait du sport et du partage. Et parfois, au détriment des siens. Il n'y a pas si longtemps, vous allez reconnaître, hein, je croisais un papa de rugbyman. Bon alors, dimanche, je te vois auprès Margot pour la dernière de tes petits gars avec le AC. Et le barbu débonnaire de me répondre mi-ennuyé, mi-fataliste. Bah non, je serai à Saint-André pour accompagner l'équipe féminine. L'entraînant, il se retrouve tout seul, alors bah, je peux pas l'abandonner. Et même si ça m'emmerde, je vais lui donner un coup de main, quoi. Mais t'inquiète, ça va, ça va. Vous avez reconnu ?
Je crois.
Je vois pas du tout, là.
Bah moi, toutes ces histoires de des gens qui se donnent, c'est ça, c'est se donner, faire don. Je rapprocherai ça avec une anecdote piochée dans l'équipe.fr. Ça se passe à West Ham, Londres. Écoutez ça. Officiellement relégué, le West Ham... pardon, qu'est-ce que je dis ? Officiellement relégué le week-end passé, West Ham a tout de même tenu à organiser le traditionnel repas de fin de saison avec ses supporters. Des fans qui avaient payé 275 euros pour manger aux côtés des joueurs dans le très chic Grosvenor House de Londres. Entre deux plats, un homme s'est présenté devant Demba Ba pour lui faire signer un autographe. Alors écoutez ça les petits gars, ça devient rigolo. L'attaquant international sénégalais s'est exécuté avant de confier à son interlocuteur qu'il était fatigué et qu'il ne pouvait pas signer, justement. Donc le mec a pété un peu un boulon, il lui a alors lancé « Moi, je paye 69 000 euros à l'année à ce club de merde pour avoir une loge et je suis fatigué aussi de votre saison. » Voilà. Je voulais qu'on voit un peu pour voir la différence entre le milieu pro, qui parfois abuse un petit peu, et le milieu bénévole, amateur, où les gens... Je crois qu'ils finissent épuisés. Je crois qu'au début, il y a un don et après, ils finissent épuisés.
Bah, là, je vais pouvoir rebondir parce que la personne, en l'occurrence, je la connais. Elles en ont surtout marre parfois d'être pris pour des cons. Pas forcément par les gens de leur club, mais aussi par les collectivités. Cette personne-là, ça fait 12 ou 13 ans qu'elle est arrivée au club de rugby. Ça fait 12 ans qu'on lui promet un clubhouse et qu'elle attend un outil de travail pour pouvoir travailler correctement et pas que toutes les 3-4 mois bah, tu te retrouves avec tous les frigos cambriolés et puis des achats qui disparaissent et puis bah, devoir réparer sans arrêt les murs parce que bah, là ils ont plutôt que de défoncer la serrure ils sont passés par le mur parce que c'est plus facile avec des parpaings de passer par les murs que de défoncer une serrure etc. Donc les conditions de travail parfois la lourdeur de plus en plus grande administrative qu'ont les associations devant tout un tas de choses à faire font que ça use.
Ouais, moi je voulais féliciter Brigitte, Nadine ou je sais plus si c'est Colette. Enfin, je voulais la féliciter. Je voulais remarquer aussi que la personne dont on parle, dont on ne dit pas le nom, le débonneur barbu, avant avait milité pendant 20 ou 30 ans dans une autre association et qu'il l'avait quitté, je crois, parce qu'il en avait ras-le-bol et puis finalement il a replongé à cause de ses enfants. Enfants ingrats.
Ouais, pas forcément.
Basket! Basket, c'est l'heure des trophées, des trompettes. Philippe Da Silva, MVP français de Pro B. C'est quand même pas si mal, les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, on est ravis pour l'ALM et puis pour lui. C'est, voilà, c'est signe d'un collectif rodé et d'un joueur de...
C'est mérité,
on a, je trouve. On a annexé le Portugal ou pas? Enfin, j'ai du mal à suivre cette histoire.
Il y en a même qui étaient amenés à dire qu'il pourrait être le MVP tout court, puisqu'il y a MVP aussi de meilleur joueur américain en Pro B, que presque ça aurait été l'impact player de la saison à ce niveau-là. Et oui, c'est tout à fait mérité, je trouve aussi.
Bon, en tout cas, moi je le félicite parce qu'en plus d'être un bon joueur, c'est quand même une personne relativement abordable et qui a gardé, su conserver la tête sur les épaules.
Je pense que tu peux même aller plus loin que relativement abordable. C'est... On va dire très abordable. Bah,
et puis les gens qui écoutent le Café des Sports sont aperçus qu'il avait pris le temps déjà de venir brièvement et que oui, il est très intéressant parce qu'en plus, il a une belle vision du sport en général. Ouais, mec sympa, mec bien.
Arrêtez de le...
Moi, je trouve par contre, voilà. Philippe, si tu nous écoutes...
Tu l'amènes quand le trophée au Café des Sports?
Voilà.
Voilà,
je l'ai vu hier, c'est un joli trophée. Quand
on
même.
Veut le trophée au Café des Sports.
Bah, on veut une photo
au Café des Sports avec le trophée.
Ouais. Bonne idée.
Je propose qu'il fasse une crédit quand même, avec il se teigne les cheveux, il se grave, se sculpte son numéro sur la nuque.
Jean-Marc de retour, je crois, le 2 juillet à Évreux pour un match d'exhibition.
Non, mais vous n'êtes pas prêt à voter ça?
Ah si, on va aller.
Cheveux jaunes et sculpter le numéro sur la nuque.
Moi j'ai autre chose en jeu avec lui.
D'accord.
Aucun danger.
Ah, c'est pas ce qu'il dit.
Ah bon, ouais. Affaire à suivre.
Ouais. Basket toujours, ça continue quand même. Il y a des playoffs. Premier adversaire, Fos-sur-Mer. Ça démarre demain à 20h. À Fos. Fos, vous avez suivi, j'avoue que je ne me rappelle plus le classement. Donc ils étaient quoi?
Juste devant nous, ils sont quatrième. Ouais. Un point de plus.
Et ça avait donné quoi, les matchs aller-retour là, en phase régulière?
Ils ont gagné les deux. Évreux a gagné les deux, par contre. À Jean Fourré, ça avait été tendu. Ça avait été un match à suspense.
On rappelle que pour cette série-là, il n'y a plus de Watson et il n'y a plus de Davis, puisque blessé et remplacé.
Reed. Main cassée, pardon. C'est ça, hein?
Fracture à la main, oui.
Ouais. Et il est remplacé par Burke.
Pourvu qu'il ne le soit pas.
Dwight Burke. Ouais. Qui arrive tout
droit. Moi, je connaissais Matthew Burke.
Moi, je connaissais James Lee Burke, mais ça, c'est autre chose aussi. Il arrive tout juste de championnat tchèque, apparemment. Bon, le seul avantage de l'histoire, c'est qu'il est en forme. Voilà.
En tout cas, c'est ce qu'il dit.
C'est ce qu'il dit.
C'est voilà. Non, c'est pas lui qui le dit. C'est ses partenaires.
Ah, d'accord.
En tout cas, donc, match à ne pas rater, samedi prochain, 20h, j'imagine.
C'est ça.
Au Centre Omnisports, salle Jean Fourré. Volleyball, c'est fini, on le sait, ça c'est fini. Mais il y a quand même des petites choses qui se déroulent pas très loin de chez nous, à Deauville. Il y a l'équipe de France féminine de volleyball qui sera opposée lors d'un tournoi à la Croatie, Israël et la Roumanie. Jeudi, vendredi, samedi et pourquoi je vous parle de ça? Bah dans le groupe, il y a quand même Théré, Gaël et Julie Molinger, Alexandra Rochelle et en marge du groupe Hélène Schleck qui reprend. Voilà.
Cinq EVBIS
dans le groupe France, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Et puis bah là, on reparlera peut-être la semaine prochaine de la reconstruction du club. On va quand même se garder des billes puisque si on doit aller jusqu'au 21 juin, faut pas tout donner maintenant. Football ! On ne s'en fout pas du foot. Qui a dit ça ? Qui a dit ça?
Qui a osé?
Qui a dit ça? On sait. Moi, j'avoue que je n'ai pas dormi ce week-end. Enfin, vendredi, j'étais tout nerveux avant ce match-là. Quoi. C'était quoi? Passy-Gap. Gap et Passy, deux équipes qui m'ont fait rêver que lorsque j'étais tout petit.
Tout petit.
Donc, tout petit, exactement. Passy et presque, c'est qui? C'est BL qui s'enflamme. Cinquième succès de rang à domicile pour Passy. Passy et presque. Et quand on dit et presque, bah, c'est le maintien. C'est le maintien, parce que Passy arrive à la 14e place. Bon, devant ce choc quand même, on rappellera qu'il y avait 450 spectateurs, ce qui pour un stade de foot, on le rappelle,
eh bien.
Enfin, c'est quand même pas grand-chose. C'est dire la place, malgré tout, du foot dans notre région. Mais non, mais faut remettre ça en cause... lorsque
même en national, ça n'attire pas les foules.
Lorsque l'EEC faisait tennis de table, a été champion, il y avait 400 à 500 spectateurs ou 600 peut-être spectateurs pour un sport totalement, je sais pas, décoté, mécoté, méconnu, peu reconnu. Comment tu dirais ça,
j'aime bien quand... Mais non, mais j'aurais utilisé un de ceux-là. Mécoté, c'était pas mal du tout.
Mécoté, voilà. Mais là, il y avait 450 spectateurs, mais ça, c'est de la furie. C'est des choses jamais vues en CFA 2, où Évreux et Passy B ont attiré quand même 300 spectateurs. Et j'imagine.
Pas loin du record de la saison, ça.
212.
Ça va qu'il y avait deux quarts. Deux quarts de supporters de Passy.
212.
Je
de
parle
Passy,
pour être sur le. J'étais sur le stade.
Voilà.
Pas pour le foot.
Donc Passy Évreux, pardon, 2, Passy B 2. Bon. J'ai bien l'impression qu'il s'agit d'une mauvaise affaire, non ?
Ah bah pour les deux clubs.
Oui, parce que ça se précise. Hein.
Évreux ne creuse pas et Passy s'enterre.
Voilà, c'est ça.
C'est le résumé, on va dire.
Évreux, 10e avec 60 points. Le premier relégable doit être, si mes comptes sont bons, c'est 4 ou 5 qui descendent ? C'est 4, hein ?
4. Oui. En fait, c'est les 3 derniers et le 4e qui fait les moins bons 4e des autres CFA 2.
Bon, imaginons 4. Donc il y a quoi ? Il y a Paris FC avec 57 points et un match en moins. Donc que 3 points d'avance sur le premier relégable.
Ah, il faut gagner samedi contre Hasbrouck.
Ouais, voilà.
Il joue le maintien aussi.
Hasbrouck, une grande équipe encore. Pas de rugby, il n'y avait pas de rugby. Si, parle-nous un peu de samedi. Samedi après-midi, vas-y.
Samedi, moi où j'étais ?
Ouais, parce que c'est pas mal ça aussi.
Ouais, j'étais avec les... On avait tournoi avec les tout petits, les... 7, 8, 9, 10, 11 ans, 5, de 5 à 11. Et bah voilà, c'est des tournois où là, ça se déroule sous forme de plateau. Il y a toujours 3 ou 4 clubs qui viennent. C'est pour ça qu'on apprécie que les matchs de foot soient décalés de 3 heures, parce que ça permet de bénéficier de bonnes conditions d'accueil pour les équipes, d'un maximum de vestiaires. 300 personnes dans 4 vestiaires, c'est vrai que c'est pratique à organiser, parce que la douche n'est pas importante quand on fait du sport. Et puis voilà, après des matchs plutôt...
Pardon, ça fait pas partie d'une des règles numéro 2 ou 3 lorsqu'on est entraîneur, de demander aux gamins de prendre une douche après un effort sportif ?
Pas dans tous les sports.
Pas normalement.
Bah non, pas dans tous les sports.
Et dans le tien ?
Ah, dans le mien, ça doit être règle numéro 2 après dire bonjour.
Ah, parce que pareil, en basket, c'est la règle numéro 2, quoi.
Pas dans tous les clubs, je pense. La douche n'est pas un impératif dans beaucoup de sports. Où on a de plus en plus d'entraîneurs.
Mais quand on parle de sport, école de la vie, etc.
Ouais, mais alors, là je vais dévier, mais il y a des sports dans lesquels on a de plus en plus affaire à des professeurs payés à l'heure et où ils sont uniquement payés et où ils conçoivent uniquement leur travail, pas sur l'activité de terrain, et ils sortent de leur rôle éducatif. Je vais prendre deux exemples vraiment exceptionnels. C'est deux cas exceptionnels, c'est le tennis, notamment, où on est sur des cours individuels où le prof enchaîne d'une heure sur l'autre et il n'y a pas un référent qui est là avant l'entraînement, pendant et après. La douche, un grand moment de bonheur dans le sport. Eh bien oui, oui.
En pétanque aussi, je crois qu'en pétanque, t'as pas...
Après, il y a dans le même registre, il y a le judo où c'est un... comment dire ? On a un professeur et puis le professeur il enchaîne cours sur cours, donc il va pas aller gérer la suite. C'est un peu un propre des sports collectifs, je pense. Il y a de la vie avant le terrain, pendant le terrain et après le terrain, ça me paraît fondamental.
Mais tout ça, ce sera réglé lorsque vous aurez un clubhouse de 3500 m².
Ouais, on en reparlera.
D'accord.
Parce qu'il y a plutôt des pas bonnes nouvelles dans ce registre-là.
Il n'y a que ça parmi chez nous, pardon. Il n'y a pas que ça.
Ouais, mais des petits qui jouent de mieux en mieux pour ma part, avec les moins de 11 que j'entraîne. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes à voir. Ils évoluent dans le bon sens.
Et une très belle photo sur votre site, là, où on voit en fait 3 jeunes qui essayent d'attraper un autre. Et je voulais vous demander justement à cette occasion-là, est-ce qu'à cette tranche...
Attends.
Je vous en prie.
Là, nos auditeurs sont chauds bouillants. Il paraît qu'on avait réussi à pas en parler jusqu'alors.
Nos web auditeurs.
Mais là, c'est au FMI, la douche est maintenant interdite. Cherchez à savoir pourquoi.
Bravo.
Ah, Damienski n'a pas compris.
Dominique Strauss-Kahn.
Mais non, mais... Non. je marche seul, Jean-Jacques Goldman. comment dire non, j'ai une question sur cette photo-là. Est-ce qu'il y a impératif pour les jeunes qui pratiquent le rugby d'avoir le... Je vois, ils avaient certains des casques de protection.
C'est
une obligation, pas une obligation, c'est comment ?
Non, c'est rassurant pour les mamans, c'est tout. La seule protection obligatoire en rugby chez les jeunes, c'est le protège-dents. comme les protèges tibia chez les au foot. C'est pourquoi le casque. Moi, je suis contre même. C'est qu'à un moment donné, d'accord. Ils se sentent sécurisés par le casque et au lieu d'aller au contact avec les épaules, ils vont avec la tête en avant, ce qui est absolument pas sécuritaire.
Je prends comme une très bonne remarque.
Dernière question. Raoulito, il a fait quoi?
Ah, Raoulito, dit canne de feu. Je sais pas, je pense qu'il a fait de la vidéo avec papa pendant toutes les vacances. Il est revenu métamorphosé. Et il commence le rugby de cette année. Au début de l'année, il était plutôt adepte du toucher hors défense.
Il esquivait un peu.
Il a dû aller à Béziers avec papa pour faire un peu les carteurs. Et là, il commence... C'est dur de garder son sérieux quand il y a ça qui apparaît. Comment dire et,
bah, moi, je t'ai rien fait apparaître. Hein. Que les choses soient claires. Hein.
Et maintenant, il commence à mettre l'épaule au combat.
Raoulito.
Voilà.
Ok, bah c'est bon pour le sport local. Non, tu nous as pas parlé de la régionale.
Excellence région.
Ah, ils ont gagné la semaine dernière, mais pas perdu ce week-end.
Non, ils ont gagné.
Ce week-end, ils ont perdu.
Ah, moi, j'ai vu qu'ils avaient gagné de 4 points en déplacement.
En Val-de-Reuil ?
Oui.
Ah, d'accord, bah, j'avais une information erronée, mais la montée est validée.
Ah, voilà qui est très bien.
Ah, très bonne remarque. Le protège-dents, c'est pour ne pas rayer le casque. Qui se cache derrière toutes ces remarques fortes ?
Parce qu'on le rappelle, si vous venez de nous rejoindre ou que vous venez pas régulièrement, en fait, vous avez moyen sur le site internet de Principe Actif d'aller dans les onglets émissions et de venir sur le Café des Sports et du coup de communiquer avec nous en live and direct. La preuve, hein, c'est qu'on rebondit sur ces messages et ces commentaires.
Et donc, protège-dents, le casque, etc. Vous avez bien compris, vous
assistez. Par contre, au rugby, en fait, en rugby, on peut se protéger de tout ça, mais il faut absolument pas faire de livres ou d'écrits ou de messages parce que là, par contre, c'est d'autant plus dangereux. Là.
Ce n'est plus le Café des Sports. C'est une émission médicale.
Voilà. En parlant de protection, on nous parle de préservatif aussi. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la douche, mais
vraisemblablement. Les bombes à eau.
Allez, musique.
When you're absolute beginners, it's a panoramic view from Her Majesty Mount Zion. And the kingdom is for you, When you tumble upon that valley, shark or sparrow line the stairs. When the arrows start descending, then they scatter everywhere. On a bookshelf in Caledonia sits a map of passageways. Best to stumble upon Mount Zion to behold the natural gates. They say the original sinners never fail a drop of pain until that second in the garden. Then they felt it each and every day. So draw back your bows, you hunters who have never felt that flame. All the absolute beginners, they are safe in the shade for today. Mount Zion, and the kingdom is for you.
Ah.
Bon, c'était quoi?
C'était Matt Ward, Absolute Beginners.
Eh ben, je crois que ça va être l'heure.
Oula!
Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Parle, je t'écoute.
Et il va vraiment falloir que tu m'expliques comment tu fais ce genre de choses.
Bah même moi, j'aimerais bien savoir.
Il fait des scratch.
Bon alors, le numéro 2. Poste occupé par l'arrière droit dans le football.
Joueur marquant, Manuel Amoros.
Ah, vous avez vu, il est allé faire un petit tour du côté de chez...
Voilà.
On y reviendra.
On va y revenir tout à l'heure.
Ouais.
Donc
il opère sur le côté droit de la défense, forcément. Sa tâche est d'empêcher les attaquants de passer dans cette zone pour délivrer des centres aux attaquants dans la surface de réparation. En situation offensive, il est là pour apporter le surnombre et éventuellement, lui, bah, délivrer des centres à ses attaquants. Ils doivent faire preuve de vitesse, d'un bon jeu de tête et d'avoir des qualités de placement. Comme joueur arrière droit célèbre, on peut vous citer Cafu, Gary Neville ou Lilian Thuram. Mais Lilian Thuram, il me semble qu'il était un peu plus.
Moi,
dans
j'aurais
le
dit bah, de l'équipe non. 98.
Non, mais c'est très bien. Oui, mais c'est très bien dit d'avoir dit parce que j'allais citer Lilian Thuram. Il a démarré sa carrière longtemps en tant qu'arrière droit avant d'être placé avec d'expérience et quelques années en axial. Mais bien vu, je l'aurais souligné.
Voilà. Au rugby, bah, c'est le poste occupé par le talonneur. Donc, comme je l'expliquais la semaine dernière, bah, il est placé entre les deux piliers lors de la mêlée.
La place du mort.
Il est chargé donc de talonner le ballon par l'introduction.
N'est-ce pas Pierre Tombal?
Non, c'était Zouf.
Zouf, ouais.
Il est chargé de talonner le ballon après l'introduction par le demi de mêlée.
T'arrêtes avec tes clochettes, toi, c'est agaçant.
Ouais.
On croirait qu'on a un aveugle à l'émission.
Non, une vache.
On va dire à ta maman de pas t'offrir des cadeaux, dis donc.
C'est une petite vache quand même, une petite cloche. Ouais.
Donc, et aussi de nos jours, je crois qu'il se charge aussi de lancer le ballon en touche. Tu penses quoi de ça, toi?
Il lance en touche. Après, c'est un peu une. Ou à haut niveau, c'est bien. On calque ça au cas niveau. On fait.
Oh, allez. Et ça, c'était du haut niveau.
Humour. Jean Blaguin.
Allez. Non, mais. Voilà, où je pense que dans certains niveaux intermédiaires, on ferait mieux de lancer le meilleur lanceur. Ça serait peut-être parfois mieux que de dire on fait lancer le numéro 2, parce que là, le numéro 2, c'est un peu complètement stupide.
Mais parfois, on fait lancer le 9.
Oui.
Le 16 aussi, non? Des fois.
Oui, mais c'est le remplaçant du 2, donc ça va.
Bon.
C'est dans la logique.
Donc, on utilise leur puissance dans les mêlées, mais aussi pour aller percuter la défense et la faire reculer, et faire reculer les adversaires lorsqu'on est en attaque. En talonneur célèbre, on a Ibanez, Fitzpatrick ou William Servat.
Fitzpatrick
surtout.
Sean ou Sean. On dit Sean ou
Sean.
Sean.
Sean. Sean. Moi j'aurais cité le complice et peut-être celui qui a mis à un moment donné après Fitzpatrick le poste de talonneur en avant, Keith Wood.
Ah bien sûr.
Qui était quand même un joueur charismatique avec son crâne rasé et tout de vert vêtu.
Et vous rappelez celui du Stade Tarbais?
Non, lequel?
Philippe Dintrans.
Ah Dintrans, oui.
Qui avait été coupé par Dubroca, parce que Dubroca était dans le club du président.
On a dit que c'était pas bien de dire des choses comme ça.
Pardon.
Au basket, le poste 2, il est occupé par l'arrière. Donc forcément, son jeu est principalement orienté vers l'extérieur avec des tirs à 3 points et tout ça. Et il peut parfois varier son jeu en pénétrant dans la raquette.
Alors, façon. Débat.
Vas-y.
Tony Parker, c'est un 1 ou c'est un 2? Tu peux mettre ton casque et répondre à la question?
Tony Parker?
Ouais, un 1 ou un 2?
Bah 1.
Ouais, je dirais ça aussi.
D'accord.
1,5?
Ouais, voilà.
Bon, en fait, non? Il dirait quoi, lui?
Oui, oui, moi aussi, je dirais que ça, c'est un, ce qui donne... Enfin, aux États-Unis plus 1, mais sur le jeu européen, effectivement, ça donne un 1,5 qui peut jouer soit avec un autre meneur, soit avec
mais
un deuxième arrière.
Bon, là, moi, je vous citerai Michael Jordan et Kobe Bryant. Vous dites quoi de ça?
Ah, de non. Qui non, non. Moi, je dirais 3, moi.
Ah non, Kobe... Et l'autre
Jordan.
Ouais, je...
Non, moi, je dirais 3, les deux.
En deux références, Manu Ginobili.
Ouais, non, mais il y a une question, là. Ouais. Non, non, moi, je...
Ouais, non, moi, je suis désolé. J'ai le droit de dire
vas-y,
non.
Vas-y, vas-y.
Ouais, non, moi non plus. 3 aussi, ouais.
Je dirais 3.
Ouais, moi aussi. Voilà.
Non, ok.
Mais après, c'est les Américains, ils ont...
C'est des appréciations particulières.
Parce que les Américains aiment jouer parfois avec un numéro 3 très grand, qui joue souvent près de la raquette. Mais par contre, avec un cadre qui s'écarte, moi, c'est assez. Quoi, voilà.
Bon, plus proche de nous, c'est le poste qu'occupe Devin Davis.
Ouais.
Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Bon.
Là, on est d'accord.
Mm-hmm. Bon, allez, je vais vous parler du numéro 2. On a en championnat d'Europe de foot, tiens. On a deux coupes d'Europe pour l'Allemagne, 80-96, pour la France, 84-2000, et pour l'Espagne, 1964 et 2008. L'équipe de France de handball est aussi deux fois championne d'Europe, 2006-2010.
En football, en club, on doit en avoir que deux, non ?
Là, je te parle de Coupe d'Europe.
Une Coupe des Coupes et une Coupe des Champions.
Ouais.
Et une ligue c'était la Coupe des Champions.
Soit le palmarès en 3 ans du Barça. Ou Manchester, non, c'est ça ?
Ouais. En hand toujours, la Croatie a remporté deux fois la médaille d'or en 96 et en 2004. On reste aux Jeux Olympiques, on a deux médailles d'or pour...
Non, pas lui.
Si.
J'ai vu. Ouais. Qui va ravir Gonzalo.
David Douillet, double médaille d'or.
T'aurais pu parler de la Djidou Kouré ?
Bah attends, je fais ce que je peux.
Après, je pense qu'il y a Tony Estanguet aussi qui a eu deux médailles d'or.
Ouais.
Qui d'autre a pu faire des doublés olympiques en France ?
Marie-Jo a fait un doublé.
Oui. Rinner, il n'y est pas encore ?
Ah, bah non, il a fait bronze au dernier JO.
À mars,
ouais. Non.
Il avait raté un peu.
Tour de France, on a deux Tours de France pour Postocopie. Pour Laurent Fignon, alors que ça aurait pu se jouer à 7 secondes, c'est ça ?
Je me rappellerai de pardon, mais je suis obligé de revenir là-dessus. J'ai l'image devant la télé. Avant la boîte carrée où en fait soi-disant il prend pas la bonne route, il prend pas le bon chemin, il est guidé par des... Vous vous rappelez pas de ça, c'est énormissime sur une finale d'étape. Alors je pense pas que c'était à Paname, à la capitale pour la dernière, mais c'était en fait il se fait orienter et mal dirigé et du coup il prend pas le bon chemin qui est alors qu'il mène, il est devant tout le monde.
Et ça lui coûte son tour.
Mais oui, et en fait il part sur là où les voitures passaient après les voitures balais.
Je joue la différence de vélo. C'est pendant un moment
vélo traditionnel et vélo de triathlon.
Voilà, avait ce qui maintenant est refusé, enfin on n'a plus le droit de le faire, c'est plus autorisé. Greg LeMond s'était présenté avec un vélo de triathlon, c'est-à-dire avec appui pour les coudes.
Ouais.
Ce qui permet d'augmenter le profil et des roues anticulaires.
Et plus un échauffement anal, je le rappelle, en fait, il avait fini le tournoi.
Un coup de plomb.
Il avait fini le tournoi avec des hémorroïdes, le garçon. Fignon.
D'accord.
Vous rappelez ? Dans le trou.
Voilà.
Voilà.
Il y a aussi deux Tours de France pour Bernard Thévenet aussi.
Et il y a aussi des deuxièmes places pour Poulidor.
J'aurais pu faire. J'ai pas pensé. Voilà. C'est tout pour cette semaine. C'est même tout pour ce mois parce que j'ai un petit mot d'absence aussi, moi, pour les deux semaines qui viennent.
Oh là 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 là.
Il va falloir que tu nous ramènes ça parce qu'on l'a pas contresigné.
Je ramènerai.
T'as ton tampon ? On a le tampon qui a fait des sports avec ou sans TVA ?
On verra ça.
La TVA à 5,5 ou à 19,6 ?
Comment tu dis ? À 5,5 ?
5,5.
À 5,5.
La musique, c'est quoi ?
La musique. Alors, on va écouter un groupe qu'on a eu la chance de voir au festival, ou si vous étiez encore plus chanceux de les voir à l'Abordage Club, fin 2007, je crois, il me semble. Et Brandon, c'est un petit échauffement pour ton périple en Wallonie du début d'été, là.
Avant dernier concert de la Plaincourt.
Je crois que c'était, moi je dirais, le dernier.
Non, le dernier était les motards de Los Angeles.
Lord of Altamont.
Exactement.
Et donc c'est ?
Donc là tout de suite c'est 2 Gallons.
Ok. I shot one man on the county line, took his time and I blew his mind, and I'm just sitting here doing time, so don't you rise no more. Well, a restless wind is whistling through my window, through my head, through all the strikes that I've survived. And in my hour of darkness I keep counsel with the dead, just enough to remind me I'm said he's gonna set my spirit free. So don't you rise no more. Gavel fell, he chose the day. Gallows high, 13th of May. But I don't plan to go that way. So don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed. And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my
tryst of the chaperone sage. Well, desperate times calls for desperate men. I'm just a kid, but I'll pretend my time will come, but until then, son, don't you rise no more. I see the gallows altar that circle round the sun. They're gonna hang me if I stay here, and they'll shoot me if I run. Jailer, better watch his pride. On my wrist, these shackles slide. Hear my restless 45, so don't you rise no more. Good night, my Andalusia. Don't buy all the lies that they feed you. And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my collection of regrets. Down the highway, down the road, to infamy I'll ride. I'll take my body on the run, with a trail of death behind me and Delavina at my side. Two silhouettes against the sun. Well, I spent last night in Las Cruces jail, raining hail, born to fail. Nobody come, gonna go my bail, so don't you rise no more.
Et les cœurs, sifflés quand
même.
Il
va flotter ce soir.
Ah bah ça serait pas mal. Ça ferait du bien quand même un peu.
On fait une tournée les mecs, les cœurs sifflants du Café des Sports.
Non, j'ai pas le cœur sifflé.
Bon, c'était Two Gallons que vous pourrez retrouver à Dour si vous y allez.
Et ben je crois que c'est le moment. On va commencer par ce petit jingle. C'est de circonstance. Voilà.
D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match?
Bon, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va préparer les technico-tactiques, on va les stroncher. Puis voilà, il y a des matchs où c'est. On est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire, comme on dit.
Avant d'ouvrir la page, s'il vous plaît, je veux savoir d'où est issue cette... Je vous l'ai jamais demandé, je crois qu'il y a des auditeurs auditrices qui doivent se demander.
Dallariva, joueur de Castres.
Castres, deuxième ligne du Castres olympique.
À la mi-temps d'un match, un joueur castré vient d'être exclu à la 33e. Ils sont menés
faut savoir,
chez eux.
Il était exclu ou castré?
Exclu. Et on colle le micro sous la goule de Dallariva.
C'est
et
énorme.
Il dit, à l'époque, il jouait avec Castagnède, etc. Et il dit, bon, là, on va arrêter un peu avec la finesse. Maintenant,
merci.
Maintenant, il faut mettre tout ce qu'il dit.
Extrait de joueur de rugby, l'excellente émission qui était à l'époque mise en place par l'ami Guillard. Pour ceux qui n'ont pas vu, tiens, je fais une rubrique cinéma exceptionnelle en même temps. Pour ceux qui n'ont pas vu son très bon film sur le rugby, Le Fils à Joe. Sorti en DVD à partir de maintenant. Voilà.
Et on peut trouver sur le net, sur YouTube ou Dailymotion, je ne sais plus, les 20 ans de. Ça, c'est 20 ans ou 30 ans ? 20 ans de rugby.
20 ans.
20 ans de rugby sur Canal, avec un film justement d'une heure de Alain Guillard. Et c'est là-bas qu'on peut, sur ce documentaire, qu'on a chopé ça. Voilà. Il y a notamment un passage extraordinaire avec les Rapetous. Je te laisse dire qui sont les Rapetous.
Alors, c'était les trois tabanards qui étaient à Bègles-Bordeaux, quand Bègles-Bordeaux a été champion de France en 90.
Moscato, Simon, Gimbert, qui défendent les couleurs du Stade français avec Laporte en rameuteur de meute, qui a un autre jogging, mais à part.
Digne de Pascal Delplanque.
C'est-à-dire, il y a du fuchsia, il y a du bleu, il y a du vert et un peu de jaune.
Une magnifique casquette.
Une casquette, mais pourrie. Et Max Guazzini qui demande aux joueurs de se taire, il envoie une chanson de Dalida et sur le côté il y a un mannequin avec la robe de Dalida et t'as t'as le président qui pleure et les joueurs qui sont en train de s'exciter parce que
ils commencent à se mettre des coups de tronche. Et voilà, c'était l'anniversaire de la mort de Dalida et une minute de silence pour une très bonne amie à moi.
Voilà.
C'est assez émouvant.
Allez choper ça sur internet.
Allez, et ben j'avais mis d'arriver avec ce passage. On va y aller avec une grosse paire parce que c'est sûrement ce que.
C'est pas Anne-Sophie.
Non, ce n'est pas elle. La célèbre. C'est en rapport à ce qui a dû se dire dans les vestiaires de Montferrandais ce week-end, parce qu'ils étaient menés 3-17 à la mi-temps. Et il y a eu retour du feu de Dieu. On va peut-être y revenir, Gonzalo. Est-ce que tu as vu
les
matchs?
Non,
j'ai vu l'autre. Ah. Bon, bah alors on va pas trop s'attarder sur ce match avec donc un retour. De Clermont qui a enchaîné 24 points pour finir à 27-17. Je crois qu'ils ont eu leur grosse paire. Ça montre quand même une équipe qui a de l'orgueil, qui a du courage. Ça montre, je pense, aussi la faiblesse de banc du côté Biarro. Voilà, ils ont eu 60 minutes dans les pattes et après, avec un essai accordé litigieux, un coup de malin. De Brock James, je ne sais pas si vous avez eu l'image.
Lorsque tu dis essai accordé litigieux essai accordé, à la vidéo, l'arbitre vidéo a mis 4 minutes 30.
Oui, oui.
Et franchement, moi j'ai vu ces 4 minutes 30 là, il est vraiment difficile de dire s'il y a essai ou non, quoi.
Ouais. Non, mais voilà, c'est pour ça.
Après, il y a une décision d'homme. Je crois que d'ailleurs, les Biarro sont pas du tout remis en cause cette chose-là. Il y a une décision d'homme et bon.
Ils remettent surtout en cause qu'ils ont complètement cédé le pied en deuxième mi-temps et qu'ils ont été archi dominés, notamment dans le secteur de la mêlée, qui leur arrive trop peu souvent.
Et par contre, l'essai de Brock, effectivement, absolument pas litigieux, lui, énorme.
Alors, s'il pourrait être litigieux dans la mesure où il y a eu un arrêt et que les Biarro n'auraient pas entendu que le temps était repris, Brock James demande à l'arbitre s'il peut la jouer. L'arbitre fait oui, il joue et il va marquer. Voilà.
Trop fort.
Coup de filou.
En finou, quoi.
Voilà, coup de filou de l'ouvreur partant.
Ah oui
Oui, remplacé par Skrela l'an prochain.
Ah bah ça va baisser d'un ton. Hein.
Après, il me semble que c'est ça. Après, donc, l'autre demi-finale, on parlait du Castres Olympique.
Indiscipline.
Indiscipline. Et puis surtout, ça m'embête de le dire, faillite un peu de l'ami Romain Tollet.
Il rate deux coups de pied.
Non, mais il est qu'à 50%, l'autre est à 85%.
Et il rate deux coups de pied, dont le dernier, hein, qui est fatal hein, dans les dernières secondes. Moi j'ai beaucoup aimé, donc il est resté prostré, il a pleuré, etc. Et les copains de dire ouais mais ce
mec. J'ai beaucoup aimé, il a pleuré.
Non, écoute.
Il a maintenu le club pendant 10 ans.
Ouais. C'est que les autres copains, ils ont dit ouais mais il nous a fait gagner tant de matchs. Et puis en fait, nous on cause 18 points d'indiscipline, de pénalité qu'on se prend et on n'aurait pas dû. C'est une erreur collective, c'est une faute collective et c'est pas sur la tronche d'un mec qu'il faut mettre ça. Et puis moi je pense que c'est un peu rugby ça aussi.
C'est ça le rugby, je pense.
C'est dommage parce que Montpellier a été malaxé, mais en mêlée, une furie.
Je vais vous donner quelques chiffres sur ce match pour comprendre mieux
beaucoup de
d'où,
fait, c'est ça.
D'où reviennent les Montpelliérains parce qu'ils gagnent 18-17. Le Castres Olympique n'avait pas perdu une fois de la maison. Une fois de la saison à la maison. Excusez-moi, messieurs, dames, messieurs et mesdames et mesdames. les grands chiffres, c'est autant de plaquages pour les deux équipes. Par contre, le Castres Olympique fait 61 passes, les Montpelliérains 32. Donc ça veut dire quand même deux fois moins d'intention de jeu. Par contre, du côté Castres Olympique, on va dire que ça n'a pas servi à grand-chose parce qu'ils ont franchi que trois fois le rideau défensif et les Montpelliérains ont franchi également trois fois.
Trois fois pour le 10 d'ailleurs. Et pour McIntyre.
Et par contre, Castres, qui a eu quand même beaucoup plus de ballons, fait 14 fautes et les Montpelliérains n'en font que 15. Donc au nombre de ballons joués, on se rend compte de cette indiscipline notoire.
Par contre, en termes d'intention, Castres aurait mérité quand même de gagner parce qu'il y a eu notamment une chevauchée mais furieuse de Tecori qui est un deuxième ligne. Il fait quoi, 110-115 kilos et qui dépose le centre et l'ailier adverse sur une chevauchée de 30 à 40 mètres. Bah, c'est dommage, moi je pense que Castres aurait mérité d'aller voir un peu plus loin. Aurait mérité. Ils sont pas su se le créer sur le terrain.
Le buteur de Montpellier se nomme comment déjà?
Romain Tellet.
Non.
Ah, Montpellier. C'est un Argentin.
C'est un Argentin alors.
Celui qui met les pénalités. Il y a deux drops, non? Il y a pas.
Un drop. Lucio Ramos, Del Santos, De La Sierra.
C'est lui qui est à 80%.
Ouais. C'est ça? Comment il s'appelle?
Bah j'essaye de.
Bustos
Moyano.
Bustos Moyano. Ah bah, il a été essentiel aussi dans la rencontre.
Alors, c'est un petit gars qui a été trouvé par Galtier. Pas difficilement au final, puisque Galtier a été pendant 2 ans à bosser dans le staff.
En charge du mouvement général pour les Argentins.
Le staff Puma.
Allez, dernière grosse info par rapport.
Ah, moi j'ai dit quelque chose après, vas-y.
Ah, vas-y. Dernière info relative au top. Pro D2 là pour la montée, il y avait deux matchs. Il y avait deux matchs fort intéressants. Grenoble qui recevait Bordeaux-Bègle et victoire de Bordeaux-Bègle à Grenoble 12-19. Pas d'amertume du côté des Grenoblois qui étaient très contents déjà de se hisser à ce niveau de la compétition cette saison. Et de l'autre côté, c'était Albi qui recevait Mont-de-Marsan. Ça s'est joué après prolongation avec une victoire des Albigeois. Qui vont jouer, alors eux c'est les habituels du yo-yo, ils montent, ils descendent, ils vont être à leur troisième finale en 5 ans ou 6 ans et ils ont gagné les deux précédentes finales. Finale Bordeaux-Bègle contre Albi, c'est le 22 mai à Agen.
Alors on rappelle, ce week-end pas de match en pro, en top 14, mais c'est repos et ensuite demi-finale.
Mais par contre, il y a de la H-Cup et de la et du challenge européen avec notamment le Stade français en finale contre les Harlequins de Londres. Match important parce qu'il y aura une place pour la H-Cup de l'an prochain en jeu.
H-Cup, finale, Leicester,
Northampton.
Avec pas moins de 6 titulaires.
C'est énorme pour le Stade français. Excusez-moi, pareil, vous avez l'habitude, mesdames et messieurs, dames, je ne suis pas un grand fin technicien ou tacticien de l'Ovalie, mais c'est quand même énorme pour le Stade français qui a, je crois, complètement loupé sa saison une fois de plus, ça doit faire 2-3 ans, en top 14, et qui se retrouve en finale de la deuxième Coupe d'Europe, c'est ça?
Ouais, mais où sont reversés les troisièmes de la H-Cup, donc ils ont quand même sorti au match précédent...
Clermont,
voilà, donc c'était pas la moindre des équipes. Les Harlequins ont sorti le Munster, qui a été quand même double vainqueur ces 4 dernières saisons de la H-Cup, donc c'est une compétition. Voilà, ils ont
relevé tout de même, donc c'est pas rien.
Ça relève le niveau de cette compétition qui était avant plutôt faible. Et puis au final.
De la Valstar quand même.
Hein. Ils ont mis toute.
Sans être de la Heineken, c'est pas de la Valstar.
Ils ont mis toute leur. Toutes leurs armes, peut-être, toutes leurs forces dans cette compétition.
Ah, faut dire quoi? Faut en dire 3 autres?
Non, pas du tout.
Pour essayer de sauver le truc, ils ont peut-être mis un peu tout le monde sur le pied par rapport à cette compétition.
Et tu voulais Damien Ski, l'homme people, le people de Principatif.
Non, il y a peut-être.
On en parlera enfin en coup de cœur, coup de gueule. Je pense que ça sera plus intéressant. Il y avait une autre chose importante sur le rugby qui est parue mardi ou mercredi dernier. C'est la liste des 30. C'est ça peut-être que tu voulais évoquer?
Non.
La liste des 30 joueurs pour la Coupe du Monde. Je vais la citer en vrac et puis je reviendrai sur 2-3 petites choses.
On peut peut-être revenir la semaine prochaine là-dessus.
On reviendra avec Raoul là-dessus.
Ouais.
Ok, pas de souci, allez. Et toi, c'était quoi ton info? Glou glou glou. Ah, là, ce n'est ni de la première ni de la deuxième, c'en est une autre qu'on sort du chapeau.
L'équipe.
Le mec a le niveau D1.
Installe-toi. L'équipe de dimanche, Afrique du Sud. Just van der Westhuizen, gravement malade. Alors je lis la dépêche, on y reviendra. Alors je devais faire.
Pas le coin local, hein, la dépêche sur le quotidien.
L'ancien capitaine des Springboks, Just van der Westhuizen.
Numéro 9 de l'équipe championne du monde en 95.
Il vient de révéler qu'il souffre d'une grave maladie neurologique. Champion du monde en 95, meilleur marqueur d'essai de l'histoire du rugby sud-africain, 38 avec Abana. Donc DW se plaignait récemment d'une douleur au bras. Mais après une série d'examens, les médecins ont diagnostiqué la maladie de Charcot. Ah, écoutez ça. Une neuropathie caractérisée par la dégénérescence progressive des neurones moteurs. Je finis. Souffrant d'une maladie similaire, son ancien coéquipier, l'immense troisième ligne André Venter, 41 ans, se déplace en fauteuil roulant. Alors, je ne sais pas si c'est le sport. Je sais pas si c'est l'Afrique du Sud, je sais pas si c'est la Picouze, je sais pas si c'est les chocs, mais moi ça m'interpelle que deux types d'une même génération, 40 et 41 ans, à terme, seront en fauteuil roulant. Moi ça m'interpelle. Parce que ce sont des gens qui nous font rêver à la télé, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe derrière et si c'est vraiment si dégueulasse que ça. Moi, c'est plus un rêve, ça tourne au cauchemar.
Alors, là, je me permets, si on avait un peu les idées noires, on se dirait que peut-être que pour la fédération rugby handicapé, c'est intéressant qu'un ancien joueur professionnel à ce niveau-là puisse peut-être amener ses compétences, ses qualités, son expérience au sein d'un collectif. Maintenant, c'est flippant, très honnêtement, c'est complètement flippant, t'as raison de le souligner. Et je pense que malheureusement, il y a peut-être du choc, il y a peut-être des choses, mais de notre génération, en tout cas la génération existante ou des gens des 10-15 dernières années, malheureusement, les produits, les recours à certains éléments extérieurs.
Je voulais dire avec Brandon, c'est pas la génération créatine, ça ?
On va y venir. C'est les équipes qui arrivaient en tournoi en Europe avec des pots de créatine qui dépassaient des sacs et qui s'en cachaient pas. En France, on a toujours eu une fédération qui a dit la créatine est interdite. Pas parce que la créatine en elle-même est dangereuse, parce que si manger 8 beefsteaks par jour...
C'est parce que c'est pas remboursé par la sécu ?
Si manger 8 beefsteaks par jour, c'était dangereux, je serais aussi dans leur cas, parce que je suis capable de le faire, largement. Par contre, c'est tout ce que ça cache derrière et ce que ça met en... et que ça permet de faire, en termes de charge de travail, en charge de produits. Et on a l'exemple d'un des pays qui a été précurseur sur la créatine dès le milieu des années 90, ils vont peut-être payer un peu les pots cassés. Ils ont gagné une Coupe du Monde, ils sont contents.
Et puis on surveillera la génération Juventus aussi, qui avait fait ça. Et dans le basket aussi, il y a des choses à voir. Ouais, les gars, faut se reporter à ce qui se passe en NFL, hein, en football américain.
Oui.
La moyenne de crevaison de l'athlète, c'est entre 48 et 52 ans. Quoi.
C'est abusé.
Ouais. Et voilà. Bon, après, c'est tout, hein. Tu sors d'un ghetto et si ta seule porte de sortie pour toi, tes enfants, ta famille, c'est te bouffer trois pots de créatine et t'envoyer de la picouze, de gagner des millions de dollars et sortir de la merde ta famille entière, écoute.
Alors, je sais pas ce que tu veux dire par sortir du ghetto. Je pense qu'à un moment donné, c'est surtout quand il y a une opportunité ou en tout cas le rêve qu'on te vend, qu'on te sert sur un plateau et qu'il est nécessaire. On va pas revenir aujourd'hui sur le débat, mais par contre, très bien d'avoir... relever cette dépêche, puisque ça amène au moins une réflexion, et peut-être que des gens vont réfléchir sur le sujet, ou ne sont pas dupes eux non plus, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est malheureux le nombre d'exemples qu'on peut avoir sur le sujet. J'ai encore souvenir, tu m'évoques ça, ami Gonzalo, sachez mesdames et messieurs, dames, qu'à 15 ans, en cyclisme féminin, je dis bien en cyclisme féminin, je rappelle l'âge, 15 ans, j'ai un exemple proche qui me vient et qui me dit qu'on a proposé à une gamine de 15 ans, qui fait donc du cyclisme, de prendre des produits pour l'aider à se développer physiquement, en lui faisant miroiter que c'est peut-être ça qu'il... À 15 ans, dans un sport qui n'est pas majeur pour la gente féminine, bref, incroyable mais vrai, donc malheureux, malheureux.
On rappellera juste un exemple qui n'est pas si loin que chez nous, c'est le monsieur, il est consultant sur Canal, il était, je le rappelle, épais comme toi, c'est un numéro 10, il était blond.
Comme Bernardo ?
Il a eu une piste et il s'est explosé le corps. Il a fini avec, c'est quoi, tendon d'Achille et genoux.
Tendon d'Achille.
Tendon d'Achille, en courant, en s'échauffant.
Au Stade de France.
Au Stade de France. Et le mec, il avait pris 25 kilos en 4-5 ans.
Allez, on clôt cette page rugby et dopage.
C'est la pause.
Du coup, c'est la pause.
Dopage.
Pour les gens qui doivent aller travailler, il est plus que l'heure, il est 13h10. Vous êtes toujours au Café des Sports. Au revoir Bernardo, et à dans un mois, trois semaines.
Trois semaines.
Oh là là. On l'embrasse en direct. Hein.
Allez, ciao.
Ciao.
Return just like water turns to steam, it runs back again out from the tree. And they startled at the scene of the brightness of entangled beams. Your feet walk in a line, and though you're wobble at the knees, keep your head up on this bow's beam. See no seams, and at the fabric and the thread are of the same sheep. We'll be right back. when your hands find they're holding others too. All the hardships sail away. All the hardships sail away. All the hardships sail away. All the hardships sail away.
Et bah c'était quoi, monsieur ?
C'était Karl Blau qui était passé à l'Abordage Club l'année passée avec When Two Becomes One.
Et bah allez, c'est l'heure. Vous êtes toujours au Café des Sports sur Principe Actif, 102.4 FM ou sinon sur le net, principeactif.net. N'hésitez pas à venir chatter ou à podcaster l'émission dans les rubriques appropriées. Il est 13h17 en direct du Café des Sports et je crois que ça va être le moment.
Qui va être champion cette saison de NBA? Nos pronostics durant la saison ont été médiocres. N'ayons pas peur de le qualifier ainsi. Mis à part le titre peut-être de meilleur joueur, mais ce n'est pas me passer de la crème, on était vraiment au chou. Ce qui est sûr et certain, c'est que le dernier qualifié pour ces finales de conférence, on vous le rappelle, la NBA fonctionne comme ça, une conférence Est, une conférence Ouest, qui durant la saison 82 matchs se rencontrent principalement du même côté, lors du même bord, mais aussi se rencontrent de manière transversale les équipes de l'Est face à l'équipe de l'Ouest, aux équipes de l'Ouest, mais à un moindre rythme soutenu. Voilà, Oklahoma, donc dernier qualifié en finale de conférence, on parle de l'Oklahoma City Thunder, équipe de...
Avec mon MVP à moi.
Ouais, Russell.
Non, Kevin Durant.
Parce que t'aimes beaucoup aussi Ami Gonzalo, Russell Westbrook. Oklahoma qui est donc le dernier qualifié, et en l'occurrence pour la conférence Ouest. On éliminé en fait Memphis la semaine, durant la semaine, hein, depuis le dernier Café des Sports. 105 à 90, donc plus 15 points, grâce en partie bien sûr au duo de choc. Kevin Durant qui est le meilleur marqueur de ces playoffs. Qui a été meilleur marqueur de la saison régulière, hein, donc le meilleur marqueur de points, le leader au point. Et du coup, a gratifié son titre avec 39 points dans cette rencontre. Mais a été très intéressamment suppléé par Russell Westbrook, qui s'était loupé lors d'un des matchs. Là, en l'occurrence, triple-double incroyable, hein, de ouf.
14 points, 14 passes et 10 rebonds.
Très bonne mémoire, Ami Gonzalo. Donc, triple-double.
Dis pas
ouf.
Très bonne mémoire, il a la feuille devant lui.
Non, pas du tout. C'est pour ça que je le souligne aux auditeurs et auditrices.
Il n'y a pas de webcam.
Et c'est vrai que. Non, il a été grandement suppléé par Russell Westbrook, qui est un joueur qui lui aussi fait partie du gratin NBA. Voilà, il a fait aussi une grosse défense. En face, on avait Zach Randolph qui a maintenu le cap aussi pour Memphis, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, Oklahoma 4-3 face à Memphis, dernier qualifié, qui rencontreront donc les Dallas Mavericks ce soir, cette nuit, à Dallas, pour la finale de conférence Ouest, assez imprévisible. On n'aurait, je crois, pas parié une bille là-dessus, sur une finale de conférence entre Dallas et Oklahoma. Du coup, les spécialistes aiment à dire que si ça se déroule en peu de rencontres, on rappelle que c'est le premier à 4 victoires, si ça se déroule en peu de rencontres, l'avantage est donné à Dallas avec l'expérience, avec des joueurs de talent, mais aussi très expérimentés, et puis aussi un Dirk Nowitzki récemment MVP il y a 2-3 saisons de cela, un joueur européen au CV incroyable, qui a une histoire particulière, sauf si vous l'avez entendu ce matin à la matinale. Ce mec-là, quand même, Dirk Nowitzki, qui est quand même davantage un shooter, on peut le qualifier ainsi, Ami Gonzalo. Même s'il est capable de prendre quelques rebonds, c'est pas un fin dribbleur, c'est pas le joueur le plus rapide de la NBA. Par contre, une incroyable capacité à prendre des shoots sur la tête de ses adversaires, mais en sachant que c'est pourtant l'arme offensive de Dallas, on a beau mettre les meilleurs défenseurs sur lui, il arrive toujours à trouver une position ou à dégainer. Eh bien, ce joueur a une histoire particulière parce qu'il a été pris et récupéré et donc sélectionné alors qu'il sortait d'une saison de Ligue 2, de D2 allemande. a été drafté en NBA en venant de D2 allemande. C'est même pas, il a fait ses armes en D1. C'est incroyable.
Encore un grand coup de Toronto qui l'avait choisi et qui l'a échangé.
Voilà, les fameuses histoires de Toronto. Donc voilà, Dallas Oklahoma, c'est ce soir, première rencontre entre Dallas et Oklahoma. Un petit pronostic, ami Gonzalo?
Ouais, moi j'aimerais bien Oklahoma, quoi, parce que Oklahoma c'est une équipe que j'aime bien, qui a un beau jeu. D'un autre côté, en face, c'est pas mal non plus, hein, mais voilà.
Oklahoma qu'on peut qualifier ayant réussi peut-être le meilleur trade, le meilleur échange, la meilleure recrue durant l'intersaison, puisqu'ils avaient signé le fameux Kendrick Perkins, qui a apporté beaucoup plus qu'il n'a fait perdre à Boston en l'occurrence. Voilà, intérieur intéressant et plus que valable. De l'autre côté, eh bien, la première rencontre entre
Je suis un peu déçu que tu n'aies pas commencé par Chicago. T'avais la musique de Chicago?
Ouais, mais parce que je gardais le meilleur pour la fin.
1998, la dernière participation de Chicago
en finale de conférence. Et c'était le dernier titre, d'ailleurs. Les Bulls qui affrontaient les Miami Heat il y a deux jours de cela se sont imposés nettement de plus de 21 points, 103 à 82.
Non, ils se sont imposés de combien?
De 21 points.
Oui, pas de plus de 21 points. Parce que de non. Plus de 20 points ou de 21 points?
Ah, de 21 points, voilà. Pardon, oui. Ouais, c'est pas facile à dire, effectivement. Le MVP d'Eric Rose de la saison, donc le meilleur joueur de la saison, 28 points au compteur. Donc tant mieux.
Ça se joue pas là.
Ouais.
Ça se joue pas uniquement sur Derrick Rose, ça se joue surtout sur le quatuor d'intérieur de Chicago qui a laminé le rebond, qui a dominé dans la raquette, à savoir plus de 20 rebonds offensifs. Soit, je sais plus, à un moment j'ai arrêté le match et quand j'ai regardé, il y avait déjà plus de 30 points en deuxième ou troisième chance pour Chicago.
Ce qui n'est pas rien. Ouais.
Donc on rappelle, c'est Carlos Boozer, Joakim Noah, Taj Gibson qui a fait un match mais de furie et Omer Asik, le pivot turc qui fait 2m17 et qui galope comme un lapin.
Il en est où j'aime bien les lapins. Et il en est où l'ami Noah justement de ce match?
Il a fait un boulot de furie.
Grosse présence défensive.
Défensive.
8 rebonds offensifs dans la rencontre.
Et ce qui est curieux, c'est que c'est un droitier. Il a sorti sa petite papatte gauche pour mettre des petits bras roulés, ouais, tout doux.
Puis des contres aussi.
Il a notamment il s'est comment on dit, il a réussi un méga contre sur Dwayne Wade. C'était très beau.
Donc pour donner un peu de statistiques, Derrick Rose 28 points, très bien soutenu aussi offensivement avec 4 paniers à 3 points, entre autres par Luol Deng, qui est un joueur particulier, atypique, puisque né au Soudan, mais de nationalité britannique. Voilà, notre ami Luol Deng qui est un bon joueur de NBA. En tout cas, qui a très bien suppléé Derrick Rose avec 21 points au compteur. Et puis, justement, parler des intérieurs, je vais en relever deux. Donc, Joakim Noah, 14 rebonds, dont 8 offensifs, c'est énorme. Et puis, Carlos Boozer, qui n'en finit pas d'apporter aussi, puisque 14 points et 9 rebonds durant cette rencontre. En face, LeBron James, 15 points seulement, direz-vous. Et Dwayne Wade,
avec,
18.
Avec lui, Luol Deng sur le dos.
Ouais. 18 points pour Dwayne Wade. Il n'y a que notre ami Chris Bosh qui a sorti le match pour le trio magique des Heat. Il s'agit donc de Chris Bosh avec 30 points et 9 rebonds. Le banc, on peut citer aussi cette statistique. Le banc de Chicago a apporté 28 points et 14 rebonds. Et pile poil, précisément, j'aurais pas pu faire mieux si ça n'avait pas été vrai. Les Bulls, c'est 50%. C'est donc 14 points pour les 28 du banc des Bulls. Et c'est 7 rebonds uniquement pour les 14 rebonds des Bulls pour Miami. Voilà, le banc qui apporte nettement moins. Mais on le savait, ça, que Miami reposait sur ce trio majeur. Affaire à suivre. En tout cas, belle et agréable surprise que cette victoire nette et sans bavure de Chicago.
Le match 2 sera réellement décisif. Décisif parce que... si Chicago mène 2-0 en jouant en perf à Miami, ce sera vraiment très très difficile pour Miami d'inverser la tendance.
Rencontre ayant lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.
Et le suivant, le dimanche.
Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Donc,
On mise des pièces, toi ?
Les finales sont haletantes, hein, je voudrais juste dire ça. Donc, beaucoup de suspense. Moi, le cœur voudrait que. Moi aussi, j'aimerais que Oklahoma passe, mais la réflexion et la connaissance, un tout petit peu, hein, j'ai envie de dire, de NBA, dirait que Dallas va se qualifier à l'ouest. Et à l'est, je suis bien sûr pour Chicago, mais je vois malgré tout Miami passer.
Moi, je joue l'autre finale. Je joue la finale Oklahoma-Chicago pour un changement de génération qui fera pas du mal. Parce que la nouvelle génération qui arrive en NBA, c'est une génération assez intéressante parce que, un, éduquée, Ce sont des joueurs qu'on voit Westbrook, Harden, Durant ou Rose, Gibson, etc. C'est une génération de garçons humbles et travailleurs. Et moi, ça me va bien. Ça. J'aime bien l'école bleue, moi.
Eh bien, affaire à suivre.
Alors que les gars au soleil, moi, les tres amigos, j'ai du mal.
Moi, ah non, mais j'ai bien précisé. Ouais. Mon équipe, c'est Chicago, mais malheureusement, je vois Miami. Affaire à suivre, qui de Gonzalo ou de Damienski aura bon.
Eh bien, on verra ça la semaine prochaine. Plus en détail et en précision. Et ben on va clore cette page NBA.
Il y avait un petit match de basket quand même en France. Il y avait la finale de la Coupe de France.
Allez.
Et ben c'est parti pour Chalon. Chalon qui a battu Limoges, qui est relégable, mais qui était en finale.
Ouais.
Un nouveau titre pour Greg Bonnot, qui n'en avait pas touché un depuis une dizaine d'années. Quand même, pour ce grand monsieur du
grand
basket
coach,
français.
Grand coach, grand joueur. Ouais.
Et club de Benjamin Biolay qui met des ronds à Chalon.
D'accord, c'est rigolo ça. Je ne savais pas.
Ouais, c'est un grand fan de basket.
D'accord.
Ok, bon bah voilà. Et bah tout est dit, tout est fait, musique.
Barcelona, non ?
Ouais, vas-y.
Music almost killed me now. And I don't understand. Music almost took my life. Things got out of hand. Music almost killed me now. I don't understand. Music almost took my life. I don't give a damn. She almost killed me.
Take some care.
ça redémarre pas finalement.
Et
ah bah si, si, regarde.
Ah bah si, c'est le retour.
Pas trop tard, il avait qu'à envoyer avant.
Ah, c'était bien quand même. C'est.
Tu aimes ça, hein?
Ouais, j'avais bien aimé.
Tu vas aller voir cet été?
Oui, je les revois à Douvres.
Rappel?
I'm from Barcelona, il y a 4-5 ans au Festival Rock déjà, passé deux fois.
Et puis j'étais passé à la Papa Mobile en clôture du samedi.
Gros
et
feu.
Puis revenu en clôture du samedi l'année suivante.
Ouais, en mode surprise.
En mode surprise avec des confettis partout. Et non, mais
Est-ce qu'on va avoir des surprises cette année au festival?
Ah, bonne question en fait, je suis pas sûr qu'il y ait un groupe surprise.
Ah bah non.
Non, je crois pas.
On espère qu'on aura des bonnes surprises, des bonnes découvertes. Et pas des mauvaises surprises. Et ben voilà, je crois que c'est le moment des. On va mettre le petit jingle qui va bien, allez. Ça fait longtemps. Et je sais que vous l'aimez bien.
Bon alors, la tactique, elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites vites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh Spivak, c'est ce qu'il a dit, numéro 10. Les Polacks qui leur chiaient sur la gueule.
Bon, alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ces types vous méprisent. Alors vous avez 45 minutes pour régler vos comptes.
Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec ça.
Allez, on rentre dans le Money Time du Café des Sports. C'est pas mal ça ce que je viens de dire. Avec la rubrique coup de cœur, coup de gueule, je pense qu'elle va être riche et animée parce qu'on a déjà eu des échanges micro fermés assez riches. Je vais commencer par un coup de cœur personnel et rugbystique. On reviendra sûrement au rugby après sur un coup de gueule. Ça concerne l'OPE rugby. L'OPE, je rappelle, au Valis des Portes de l'Eure. C'est le regroupement entre Évreux, Saint-André et Vernon. L'an passé, j'avais eu la chance de coacher des cadets qui avaient été en finale du secteur nord-est avec quasiment que des franciliens à affronter. Puis on avait ramené le trophée. Et bah, cette année, on double la mise. On va tenter de la doubler. On est de nouveau en finale. Cette fois-ci contre Garches, club qui évolue en Fédéral 3 sur Paris. On a sorti d'autres gros clubs parisiens. On aurait dû postuler au championnat de France parce qu'on avait fini deuxième de la poule et un changement de règlement une journée de la fin nous a fait rater les phases finales. On aimerait bien faire clore le bec à ces clubs franciliens et à cette fédé qui s'arrange toujours pour que ça se passe pas comme c'est prévu pour arranger le copain de l'ami du machin. Voilà, les clubs qu'on a battus les semaines passées nous ont dit mais vous avez rien à faire ici, vous aviez votre place en championnat de France, vous vous êtes fait voler. Donc on va essayer de montrer à ces dirigeants franciliens que le trophée remporté l'an dernier à Pontarlier n'était pas le hasard et qu'on va le regagner cette année en Ile-de-France. On joue à Garches contre Garches et bon, on ira gagner et on ira chercher le trophée là-bas. Je souhaite bonne chance à tous ces petits cadets et notamment à l'encadrement Thomas Lasseur et Arnaud Clément. Voilà.
Moi, un petit coup de cœur, il va être ovalistique. Et oui, messieurs, j'étais devant ma boîte carrée dimanche matin et je découvrais que dans la région de Limoges, donc du Limousin, quelle est cette région pour la géographie ovalistique du cru, en fait, des finales départementales se réalisaient tout au long de la journée dans un beau et grand stade. Alors j'ai honte puisque je n'ai pas, j'ai omis le stade en question et j'y ai vu une grande et belle fête offerte au rugby avec des clubs de village, des clubs départementaux qui se retrouvaient en finale. On faisait un espèce de challenge avec les deux meilleures équipes de la saison. En fait, ça avait juste une consonante et peu de sens ou peu de poids quant à un trophée, mais c'était plus voilà, une rencontre de plusieurs clubs, de plusieurs villages, une rencontre de gens du cru qui aimaient et appréciaient leurs équipes locales. Et j'y ai découvert franchement un bel hymne au rugby offert ce dimanche matin dans la boîte carrée. C'était sur la deuxième chaîne de la télévision. Très sympathique.
Ouh, t'es debout de bonheur le dimanche matin, toi.
Ouais, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette.
C'est rencontre à 15.
C'est ça, ouais.
Ouais, j'ai trouvé ça vraiment très chouette qu'on puisse considérer ainsi le rugby. Comment dire, comme on l'évoque à chaque fois,
Ou tout simplement
non pas, Pardon ?
Tout simplement, on revient à la chronique d'ouverture de Gonzalo, le sport amateur, et la beauté du sport amateur et des choses simples.
Ah bah là, c'était
et des gens dévoués.
Parfait exemple et un bel hymne.
Voilà. Chose simple, tiens, mon coup de cœur, avant de passer le coup de gueule plus tard. Coup de cœur, on reste dans les coups de cœur. Wolfsburg.
Oui.
Ah. Bundesliga, football. Félix Magath sauve le club avec les joueurs, bien sûr, ils sauvent leur tête en Bundesliga. Et ben, qu'est-ce qu'a fait Félix Magath? Il a décidé que les joueurs rentreraient en train avec les supporters pour faire plus des 5 à 6 heures ou 8 heures, je sais pas, de train. L'avion est rentré sans eux. Ils avaient un jet, un avion réservé. Il est rentré sans eux et il a demandé à ce que tous les joueurs viennent faire la Java avec les supporters pour partager un moment sympatoche, alors que la saison avait été très dure. Peut-être aussi que les spectateurs avaient quelques petites rancœurs envers leurs joueurs. Bah, ça nous éloigne quand même de ce que je vous disais en préambule de Dembaba qui dit moi je suis fatigué, je peux pas signer un autographe.
C'est un scandale.
Je peux pas signer un autographe, je suis trop fatigué.
Ouais.
Et bah là les joueurs ils sont rentrés.
Non mais dis-le si tu sais pas écrire. Pardon.
Fais une croix, ça suffit.
Et voilà, c'est sympa. Je crois qu'on voit jamais ça en France.
Ah bah si, bah justement on va. Bah,
je parle en foot.
Ouais, bah, non, c'est bah, classe. Ouais, bah, non, c'est classe.
Allez, si je relève une petite information. Où il y en a deux.
Transmise par le seul supporter nancéen de la région.
De l'ASNL.
C'est comme Arsenal non, avec quelques lettres en moins.
Voilà. Non, juste, déjà, c'est pour saluer la victoire de Lille et puis la belle fête qui a été faite au Lilo, comme on dit, pour leur trophée contre le PSG. Voilà, ça fait plaisir de voir un club qui a travaillé depuis une petite dizaine d'années sur un projet. Réussir à gagner quelque chose.
Ouais, qui va se doter d'un très beau complexe.
Voilà, ils vont avoir un centre de formation de super qualité, un nouveau stade. Voilà, donc ça fait plaisir que des clubs qui travaillent, même si on n'aime pas l'Olympique
Lyonnais. Et d'une belle région.
Même si on n'aime pas l'Olympique Lyonnais, est un peu un club qui a quand même travaillé sur du long terme avec son président à la tête et qui les a accompagnés très longtemps. On peut comparer le LOSC un peu à ça. Avec en plus cette vision de rentrer de l'argent sur le stade, sur le complexe, au travers des rentrées d'argent sur un équipement de qualité.
Tiens, en parlant de Lille, de Lyon, je fais juste une aparté. C'était un truc dans l'équipe hier.
Jean-Michel Aulas.
Non, il parlait de Gourcuff, le prix de Gourcuff. Et ben pour ce prix-là, Manchester a acheté Chicharito, les deux jumeaux brésiliens et je ne sais plus quel joueur. Voilà.
Allez, pour continuer donc par rapport au foot on est malade Gonzalo, on fait des coups de cœur sur le foot.
Ouais, mais c'est parce que on est
sur l'Ovalie.
On voilà. Est payé en Mirabelle alors.
Alors j'ai un double coup de cœur pour les deux clubs actuels qui risquent de se maintenir tel au jour d'aujourd'hui. Il y a le Stade Malherbe de Caen. Ce qui permet à Tanguy d'aller voir un match pas trop loin dans une ambiance plutôt sympa plutôt que d'aller au PSG. Et puis il y a le maintien de peut-être de l'AS Nancy-Lorraine qui sauverait la tête de son emblématique entraîneur Pablo Correa. Mais surtout c'est l'initiative des joueurs qui ont décidé de payer l'ensemble des bus pour l'ensemble des supporters qui désiraient se rendre à Rennes pour le dernier déplacement de la saison. Alors c'est l'avant-dernier contre le cinquième du championnat. Et du coup, voilà, les joueurs ont dit, on vous a offert une saison de merde, et ben on vous paye le bus pour venir. Alors,
J'y mets un bémol, il faut qu'il y ait en jeu un maintien pour qu'ils réagissent ainsi. Donc, voilà.
C'est déjà pas si mal.
C'est mieux que rien. Voilà. C'est
ouais.
Mieux que rien.
Ouais, je ne sais pas si c'est une question de maintien.
Dans ce monde professionnel si individualiste, moi je trouve que c'est pas si.
En même temps, c'est combien de pourcentage de leur salaire
ouais,
pour payer des
peu
bus
importe. Et signer un autographe, c'est combien?
Peu importe. Alors, là, tu as donné un exemple abusif
peu
total.
Importe. Mais... Non, mais ou, c'est comme Mathieu de Bonnemer qu'on enchante et qu'on.
Ah, mais non,
on encense.
Qu'on encense avec ce qu'il donne à l'EFC.
Et ce qu'il fait aussi pour les jeunes du club.
Non, peu importe. Les jeunes du club, il est fait. À l'heure actuelle, peut jouer, il joue en B. La plupart.
Ah, on parle et, pas. Pardon. Oui.
Non. Moi, je parle de ce qu'il fait avec son argent. C'est dérisoire à l'échelle de ce qu'il a pu gagner à certains moments. Mais à côté de ça,
il est 40 ton coup
oui,
de cœur.
Oui, non, attends. Pardon. Juste à côté de ça, il est suffisamment rare que des joueurs le fassent que même si ça ne représente que 5 ou 10% de ses gains, et eh ben ça vaut le coup de le souligner.
Enfin là, Mathieu Bonnemer, c'est un mauvais exemple parce que c'est le seul joueur en exercice en Ligue 1 qui est président d'un club de CFA 2.
Mais c'est ce que je viens de dire.
Ah, on
mais j'ai
d'accord,
dit que à l'échelle de ce qu'il donne à l'EFC, c'est rien par rapport à ce qu'il a pu mettre de côté.
Mais là, on parle de quart de supporter. C'est ce qu'il fait régulièrement pour les rencontres au Parc des Princes avec des jeunes du quartier ou des communes avoisinantes.
Allez,
Chabalito. Le fameux coup de gueule.
Chabalito.
Allez, 5 minutes.
Bah, moi, ouais, excusez-moi, mon coup de cœur était rugbyistique.
À peine.
Mon coup de gueule l'est aussi. Je ne comprends pas de nos jours qu'un joueur qui est en exercice, en fonction actuellement dans le top 14, donc le plus haut championnat de rugby en France, puisse écrire un livre. Et d'ailleurs, écrire un livre, en fait, il a été aidé. C'est comme bon nombre d'artistes ou autres qui réalisent des ouvrages, réalisent un livre dans lequel, en fait, il critique et décrit une situation particulière du corps arbitral. Et que du coup, suite à un écrit, alors que le mec est en fonction, ok, il n'est pas tendre, mais c'est pas non plus un méchant joueur sur le terrain, se fait sanctionner et prenne 30 à 60 jours de sur le côté. Alors expliquez-moi, là j'ai besoin d'arguments parce que c'est là j'ai trouvé ça scandaleux.
C'est fini ? Bah c'est rugby, voilà.
C'est normal.
C'est normal, tu dis que les arbitres sont tous des nuls, tu prends 60 jours.
Ah donc même si c'est vrai ?
Même si c'est vrai.
Ah ouais, non, même si c'est vrai, faut pas le dire.
Tu ne dois pas toucher à la fonction sacrée.
C'est fini là ? C'était fini là ?
Non, attends.
Non, mais... Enfin.
Pour moi, tu ne dois pas toucher à la fonction sacrée de l'arbitre. C'est le mec qui est... En plus, quand tu es l'image actuelle du rugby, t'es quand même la personne la plus médiatique dans le rugby.
Regarde, c'est simple, Davinsky. Tu as deux histoires en même temps. T'as Chabal qui dit sont tous des nuls, les arbitres. Et t'as Taïwo qui dit parisien enculé. Et ben, t'en as un qui prend un match et l'autre qui prend 60 jours. À mon avis, quelle est la fédération qui est la plus respectueuse des joueurs,
des arbitres,
de l'esprit, des spectateurs et des gamins qui vont taper le ballon le week-end? C'est le rugby.
Sauf que les auditeurs et auditrices du Café des Sports ont l'habitude de vous entendre décrire l'arbitrage qui n'est jamais à la même... même échelle.
Mais on n'est pas
week-end.
Des joueurs pros, on n'est pas l'image de notre club.
Oui, mais
de notre
est-ce que parce que nous sommes acteurs, nous ne pouvons pas nous permettre de remettre en question des éléments? Est-ce que c'est pas pour faire avancer la chose? Est-ce que c'est pas pour dire relever un problème qui est peut-être profond
ça
au sein
pas
du
avancer,
rugby?
Ça fait pas avancer les choses de tu dire peux... c'est des nuls.
C'est un côté sectarisation, excusez-moi, mais c'est un côté sectarisation.
Il y a deux choses dans son livre qui posent problème.
Sectarisation, je suis pas sûr de ce mot-là, mais nous on n'insulte pas. Déjà, on n'est pas joueur pro, on fait pas partie de Fédé, et puis on évoque éventuellement des problèmes d'arbitrage. On n'est pas là à globaliser, l'ensemble d'une profession. Voilà, on dit, on relève tel arbitre a peut-être mal arbitré, ouais, ça arrive, mais on n'est pas là à globaliser. Lui il globalise, il dit moi je suis joueur pro et je suis arbitré par des nuls. Voilà,
qui sont pas des pros dans leur démarche.
Bah, moi, à un moment donné, je pense que ça devrait pas avoir plus d'effet que ça. À la limite, lui démontrer que c'est pas vrai.
Tu nous demandais combien c'était d'arbitré. Tu nous demandais combien c'était d'arbitrer en top 14. C'est entre 300 et 400 euros. Voilà.
En top 14?
Mais oui.
Celui qui est sur le gazon. Ouais.
Hormis s'il est professionnel,
Chabal,
payé
il gagne
par
500 000.
La
ligue. Ah, mais attends, il y en a combien de professionnels
3.
Aussi
3.
3
arbitres.
Il y en a que 3. D'accord.
Voilà. Et les autres, ils touchent 300 à 400 euros.
D'accord, je pensais pas.
Et en plus, ils vont dormir au F1 du coin, etc. Et ils mangent 3 sandwichs.
Enfin, moi, pardonnez-moi, j'entends tous vos arguments, mais c'est vrai que ça m'a quelque peu choqué.
Non, moi, je trouve que c'est bien, c'est ce qui garantit encore l'état d'esprit du rugby, c'est qu'il y a des...
N'y avait-il pas moyen de l'encontrer, qu'il
amène le rencontrer?
Non, t'assumes, t'écris une connerie, tu dis une connerie.
Alors, vous m'avez dit en micro tout à l'heure, qui était quelque peu un bon argument, mais je trouve pas défendable, il aurait mieux fait de le sortir à ce couillon à la fin de la saison.
Bah oui, au moins il était tranquille.
Mais c'est vrai que c'est quand même dommage.
Et c'est qui maîtrise pas sa communication.
Le club en question va affronter qui?
Peu importe.
Est-ce qu'il y a, moi j'imagine, moi, qu'il peut avoir quand même des forces obscures qui puissent aller dans ce sens-là? Il va affronter qui? Moi j'ai envie de répondre à ma question, s'il vous plaît. Il va affronter qui, le Racing Club?
Montpellier.
Montpellier? Ouais, c'est vrai que c'est pas Montpellier qui va être aidé par la Ligue.
Non, mais même.
Mais c'est quand même étonnant. Je veux dire, le mec, on pénalise son club. Je veux dire, les employeurs. Mais non.
Mais
ça, à un moment donné, c'est comme
être
dans une société. Dans une société, un employé fait le couillon. C'est pas l'entreprise qui a tout merdé.
Mais si, un joueur, si
ça doit se régler en interne.
Pour moi, un joueur qui fait une fourchette sur un terrain, il va prendre. Fourchette, je rappelle, c'est de mettre les doigts dans les yeux. Il porte atteinte à l'intégrité physique d'un mec, il va prendre 6 mois. Et ben là, il porte atteinte à l'intérêt du rugby. Ah. Voilà,
prenons le football.
On parle du respect, des valeurs.
De Jong à Manchester City.
Qui casse
la jambe de Ben Arfa avec une intention évidente de lui péter sa saison.
Il doit prendre 6 ans.
Bah pas 6 ans, mais pour moi, tu vois, il devrait prendre la durée de l'indisponibilité du joueur blessé.
Je suis tout à fait d'accord.
Et la Fédé de foot ne fait rien pour que ça s'améliore dans les stades.
Tout à fait d'accord.
Et sur le terrain.
Manchester United, Manchester City, on le rappelle aussi, les Émirats derrière, ça allonge et tout, et c'est ça un grand scandale. Non, pardonnez-moi, moi c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je trouvais ça surprenant. Vous qui êtes davantage spécialiste que moi, je me rangerai derrière vous. Je veux bien comprendre.
La conclusion de tout ça, c'est que tu vas voir. Alors, nous, on a eu la chance de le faire. Tu vas à Toulouse pour un match très important pour les deux clubs. D'accord ? Et bah, autour, t'as des Montferrandais, t'as des Toulousains, t'as des étrangers comme nous. À aucun moment.
L'arbitre se fait suivre.
Non, tu te sens dans un sentiment de danger.
Non, on extrapole.
Dans les stades de foot, moi j'ai peur.
Oui, mais
là-bas,
si,
j'ai pas peur.
Chabal,
parce que tout si
le joueur. Chabal, en
si
plus,
le joueur.
On est d'accord.
Mais non.
Attendez.
Il est rien sur un terrain de rugby. Il n'a jamais brillé. C'est une icône du rugby par rapport à sa barbe.
Peut-être.
Comme Michalak a été une icône du rugby avec sa belle gueule.
Oh non, il était un peu de la passe aveugle et tout. Moi, j'aimais bien les phases et tout. Bon, après, il a été longtemps
comme
blessé.
Comme Chabal, des coups de génie.
Un mec pour une belle gueule dans le top 14 australien ou je sais plus où. Quand il a été joué pour les Sharks, je suis désolé, il a été joué pour qui, lui?
Il a fait 5 matchs et demi, quoi.
Ouais, bah, en finale, il a pas été pris pour une belle gueule. Bon, bref. Mais Chabal, c'est quand même un mec qui, en plus, connaît le terrain, a joué en Angleterre, si je ne m'abuse. C'est d'ailleurs ça qui l'avait permis de revenir en France. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour moi, extérieurement, c'est un mec qui pratique son sport depuis un long moment, qu'il connaît, qui, à un moment donné, tient un constat. Il n'a pas fait ça pour faire le buzz. Il n'a pas besoin de ça pour gagner plus d'argent ou d'être davantage médiatisé, ami Gonzalo. Et donc, je voudrais finir là-dessus. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'inciter à faire la chose autre que de tirer un constat personnel? Eh bien, moi, je trouve qu'on ne devrait pas le pénaliser sur un avis personnel.
Si, un constat personnel, faire une bio...
La ville d'Evreux est une conne à la couler le club de tennis de table. Et puis,
Faire une bio à 35 ans, déjà, c'est de la mégalomanie.
Quand tu joues encore, ta carrière, elle est derrière. Elle est devant
faire
toi.
Faire une biographie,
d'accord.
C'est de la mégalomanie à 35 ans. Tu fais ça à 60, quand t'es retiré des machins, voilà. Bio à 35 ans, faut pas déconner.
Vous voyez, donc le débat aura quand même un petit peu enrichi. Mais sachez qu'au Café des Saints et Café des Sports.
Le débat, c'est que l'esprit doit être conservé et préservé.
On n'est pas d'accord.
Le débat.
Non, j'ai pas dit qu'on nous étions d'accord, mais comment les auditeurs et auditrices entendaient deux sons de cloche. Et je pense qu'il y avait des arguments et des éléments.
Et en plus, nous avons des auditeurs et auditrices qui sont lettrés. Et on dit un aparté et pas une aparté, je le reconnais.
Allez.
Avec un seul P comme petit.
On clôt ce Café des Sports.
Bien riche une fois de plus.
Bah désolé, comme à l'habitude, j'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. Vous pouvez retrouver le Café des Sports sur le podcast, sur principeactif.net. Il pleut pas dehors, mais on doit fermer. Au revoir, Gonzalo.
Merci à toi encore, Brandon.
Au revoir, Damienski.
Au revoir, Brandon. Et au revoir, Gonzalo. Et au revoir, Bernardo. Et salut, Raoul.
À la semaine prochaine.
Dave, on pense à toi.
Christophe Dominici, c'est un génie!
Essai! Pas vrai, c'est pas vrai! Deux fois, ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième but!
But d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute!
Oh là, chute de Mélanquille, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain!
Ça y est, Sheffield est parti! L'Express, le TGV est parti! Sheffield, 9,58, record du monde!
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne.